après une bonne confession, la grande question, c'est comment persévérer dans cet état. Surtout au cours d'une retraite, la confession a vraiment cet effet d'apaisement de notre conscience, vraiment cette confiance de retrouver la pleine amitié avec le bon Dieu. Alors comment rester dans cet état? Eh bien, il faut prendre les moyens que notre Seigneur Jésus-Christ a choisis. Je pense qu'il ne faut pas chercher des recettes particulières. Les sacrements sont vraiment les moyens privilégiés que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu instituer pour assurer notre persévérance. Alors, il me semble que dans une retraite, une des résolutions essentielles, c'est justement comment mieux profiter des sacrements. Bien souvent, nous perdons pied un peu dans notre vie chrétienne, nous retombons dans nos ornières, nous avons tendance à nous retrouver dans une certaine médiocrité parce que nous ne savons pas suffisamment exploiter ces forces vives qui se trouvent dans les sacrements. Notre Seigneur Jésus-Christ a voulu vraiment que la Sainte Eucharistie, dans la Sainte Messe, eh bien, ce soit vraiment la nourriture de notre âme. Si nous vivons notre messe, nous sommes sans cesse renouvelés intérieurement. Et puis, il y a la confession. La confession, je voudrais d'ailleurs vous rappeler les effets de la confession. C'est intéressant de savoir quels sont les effets de la confession. Bien sûr, il y a l'effet que tout le monde connaît, c'est que la confession nous pardonne l'offense que nous avons faite à Dieu. Donc, la confession nous rend l'amitié avec le bon Dieu. Et c'est énorme, nous nous sentons en pleine union avec le bon Dieu. Autant le péché a pu nous, sans nous séparer, Dieu merci, nous ne commettons pas tout de même des péchés mortels, mais le péché délibéré, quand même, crée un certain éloignement, une certaine froideur dans nos relations avec Dieu. Donc, le premier effet de la confession, c'est celui-là, déjà, de nous remettre en pleine amitié avec le bon Dieu, hein, en effaçant la faute. Vous savez que la confession aussi nous remet la dette due au péché. Il faut faire la distinction entre la faute et la dette du péché. Vous voyez, imaginez que vous avez un commerçant qui se dispute avec son client. Hein, c'est un marchand de fruits, etc. Ils en viennent aux injures. Et le client, avant de partir, il donne un grand coup de pied dans l'étalage et toutes les pommes et les fruits partent, hein, etc. Alors le client, pris de remords, revient et demande pardon au commerçant. Le commerçant lui dit, bien sûr, je me réconcilie avec toi, hein, on se serre la main, mais maintenant, ben, tu vas payer les fruits que je ne peux plus vendre. Hein. Vous voyez la différence? On se réconcilie, on pardonne les injures, mais bon, il y a du dégât, hein. Les fruits sont par terre, ils sont devenus invendables. Hein? Donc, mais pour nous, c'est pareil. Quand on offense le bon Dieu, on viole son commandement, on lui désobéit, on l'offense, mais en même temps, on fait du désordre. Donc, dans la confession, hein, le bon Dieu pardonne l'offense, mais il faudra réparer le désordre. Ouais, il y a une dette. Eh bien, la confession remet une partie de la dette déjà. Ouais. Alors, cette dette, je dois aussi la compléter par mon devoir d'État. C'est une manière d'atténuer cette dette. Je peux le faire par des pénitences particulières. Et si je meurs en état de grâce, je suis réconcilié avec le bon Dieu, j'ai la pleine amitié avec le bon Dieu, je me suis confessé. Mais je dois aller au purgatoire pour finir d'expier cette dette. Ouais, donc, distinguez bien dans le péché. Vous voyez, le bon Dieu, dans la confession, me rend son amitié, il efface la faute, mais il laisse la dette. Il me reste une dette à acquitter. Ouais. Eh bien, la confession remet, diminue déjà la dette. Ouais. Donc, c'est un deuxième effet de la confession. La confession remet la dette. Ensuite, la confession me rend mes mérites. Celui qui a commis un péché mortel, il perd toute dignité aux yeux de Dieu. Il perd non seulement la grâce divine, mais tous les actes bons, les bonnes œuvres qu'il a pu accomplir, tout ça, ça ne vaut plus rien. Eh bien, la confession, pour celui qui est en état de péché mortel, lui rend ses mérites. Mais même pour celui qui n'avait pas péché mortellement, donc qui n'a pas perdu ses mérites, eh bien, la confession augmente les mérites. Ça, c'est très encourageant. de savoir que en allant me confesser, c'est toujours pénible. Vous avez les gens qui vous disent, bien souvent, en venant vous confesser, pour moi, c'est toujours quelque chose de très difficile, etc. Mais bien sûr, et heureusement, parce que si on allait se confesser comme ça, hein, tranquillement, ça veut dire qu'on ne prend pas les affaires au sérieux. La confession, c'est justement quelque chose d'humiliant, c'est quelque chose de douloureux, c'est quelque chose de pénible. Eh bien, le bon Dieu tient compte de cette humiliation, de cette peine, pour en tenir compte comme mérite. Il en fait un mérite. C'est incroyable, la miséricorde de Dieu. Quand je vais me confesser, non seulement il me remet complètement l'offense, il me remet une partie des dettes, mais même il augmente mes mérites. Vous voyez, Saint Pierre, lorsqu'il y a renié notre Seigneur Jésus-Christ, il a commis un péché mortel, bien sûr. Ouais. Mais quand il a demandé pardon, non seulement il a retrouvé le même degré d'amour de Dieu, mais il avait une telle douleur, une telle contrition de son péché, qu'au bout du compte, il était meilleur après son péché qu'avant. Parce que la confession l'a tellement aidé à s'humilier et à manifester son amour à notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il a grandi. Il a grandi, en fait, par sa contrition. Et retenez ça, c'est très encourageant, que celui qui fait une bonne confession, il ressort meilleur. Ouais. Il a plus de mérite aux yeux de Dieu, parce qu'il a fait toute une démarche coûteuse, pénible, douloureuse, dont le bon Dieu tient compte. Ensuite, c'est le troisième effet de la confession. Quatrième effet de la confession, elle est un remède. C'est-à-dire, si j'ai commis le péché, c'est que j'ai des inclinations mauvaises qui, finalement, ont débouché, ont abouti sur le mal que j'ai commis. Lorsque j'ai commis le mal de gourmandise, de vol, etc., c'est pas par hasard, c'est pas parce qu'il y a eu une occasion, c'est parce que foncièrement, en moi, je suis enclin à abuser de la nourriture, à prendre le bien du prochain, etc. Eh bien, lorsque je vais me confesser, le bon Dieu amortit cette inclination au mal. Il la diminue. Et si je me confesse bien, lorsque cette occasion que j'ai eue là, qui m'a fait succomber au mal parce que je suis incliné au mal, après ma confession, me retrouvant dans la même situation et retrouvant les mêmes occasions, eh bien, je vais sentir que j'ai davantage de force de résistance. Peut-être que je vais, au bout du compte, encore succomber, mais je me rends compte que eh bien, il y a eu plus de réactions par rapport à la prochaine fois. C'est très encourageant de savoir cela, que la confession me donne des forces supplémentaires, me donne un remède, me donne des secours, me donne une certaine expérience qui fait que, à l'avenir, dans d'autres occasions, me retrouvant dans la même situation, la confession va me donner cette force de résistance. Me sentir soutenu, je vais me sentir réconforté, affermi. Et pourquoi pas, vous avez des gens qui font de si bonnes confessions que finalement, d'une confession à l'autre, sur certains péchés, ils arrivent complètement à enrayer la mauvaise habitude. Ou s'ils retombent, c'est moins souvent. Et quand ils retombent, c'est moins gravement. Eh bien, ils sont sur la voie de la guérison. C'est merveilleux. Ouais. Ça serait une illusion, surtout pour les péchés de sensualité. C'est très curieux parce que les péchés de sensualité ne sont pas les plus graves. Celui qui s'enivre, celui qui commet l'impureté, etc. C'est beaucoup moins grave qu'un blasphème, qu'un sacrilège, etc. Mais la différence, c'est que celui qui commet le sacrilège, le blasphème, il peut du jour au lendemain cesser ce genre de péché. Pourquoi ? Parce que c'est dans la tête. Ouais, c'est des péchés spirituels. Tandis que celui qui a commis un péché de gourmandise, qui est alcoolique, qui est un drogué, qui est luxurieux, etc. C'est dans sa chair. Il y a quelque chose qui est marqué dans sa chair. Ça sera beaucoup plus long, beaucoup plus difficile. Il est beaucoup plus difficile de se corriger de l'ivresse, de la drogue, de l'impureté, parce que c'est le corps qui est marqué, c'est ma chair où sont incrustés ces péchés-là. Donc il ne faut surtout pas se décourager. Quelqu'un qui fait une très bonne retraite, une confession générale merveilleuse, mais qui a accusé ce genre de péché, de sensualité, il ne faut surtout pas qu'il se décourage si après la retraite, il recommence. Mais l'important, c'est qu'il tombe moins fréquemment, et quand ça se produit, c'est moins gravement. il est sur la voie de la convalescence. C'est comme quelqu'un qui s'est cassé les jambes, etc. Vous n'allez pas croire que parce qu'il a été bien opéré, il va sortir du lit le lendemain et puis hein, il va faire un 100 mètres. Alors, laissez-lui le temps. Hein, il est resté 3 mois hein, comme ça étendu, tous ses muscles, il ne reste plus rien. Il faut qu'il se refasse les muscles. Ouais. Eh bien, c'est pareil pour la confession. Alors, retenez cela, c'est que la confession, donc, non seulement me rend l'amitié avec le bon Dieu, elle diminue la dette, elle me rend mes mérites et même elle me les augmente, elle me donne cette résistance, cette capacité de résister au mal, ouais, et même si je succombe, c'est jamais de la même manière, vous n'avez pas le droit de dire, et on l'entend très souvent, « Mon père, je viens me confesser, c'est toujours les mêmes péchés. » Je pourrais vous donner la liste, faire la même liste, et puis hein, la donner pour m'éviter de vous lasser, hein, et pas de me fatiguer, voilà. Hein, voilà le truc, hein. Et puis donnez-moi l'absolution, puis ne faites pas trop de discours, ça sert à rien, de toute façon, hein, je sais que je vais recommencer. Eh bien, on n'a pas le droit de dire ça. Parce que justement, autant un médecin, lorsqu'il vous donne des médicaments, il peut se tromper. Le médicament peut être mal adapté, etc. Il peut, effectivement, un médicament peut vous laisser dans le même état ou même l'aggraver. Par la confession. Il faut vraiment venir avec la confession que ça va changer. Même si c'est imperceptible, même si j'ai l'impression que c'est vraiment insignifiant, du moment qu'il y a une petite évolution, on commence comme ça. Et puis après, ça va aller d'évolution en évolution, ça va être merveilleux. Ça va vraiment changer. Bien souvent, c'est ça qui nous décourage. C'est l'impatience. On voudrait d'une confession à l'autre, hein, on se retournait comme une crêpe. Ça n'existe pas. C'est des miracles. Mais d'ordinaire, ça ne se passe pas comme ça. Alors, bien souvent, des gens qui font une très bonne retraite, au bout de quelques temps, quelques semaines, quelques mois, ils retombent et même plus bas parce qu'ils se sont découragés. Ils n'ont pas cru à cette efficacité de la confession qui demande du temps, qui demande de la patience, qui demande de l'endurance. Oui. Ensuite, cinquième effet de la confession, c'est la paix. C'est la paix, ça donne cette sérénité. Et c'est énorme. Vous voyez que notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est ressuscité et qu'il va voir ses apôtres, qu'est-ce qu'il leur dit ? Ma paix soit avec vous. Vous voyez, une conscience qui a cette sérénité, eh bien finalement, quoi qu'il arrive, elle sait que même si elle a des accidents, un accident corporel, même si elle perd un être cher, elle est en amitié avec Dieu. Si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi ? Et c'est énorme. La paix de la conscience, c'est un peu comme quelqu'un qui a une température normale. Quelqu'un qui est toujours un peu fiévreux. Hein, c'est quelqu'un qui se fatigue. Ça veut dire que la machine, là, elle tourne en sur-régime. Il est en train de s'user. C'est pas bon d'avoir quelqu'un qui, dès le matin, a déjà un peu de fièvre. Bien nous, c'est pareil. Quelqu'un qui est agité, quelqu'un qui est tourmenté, la vie devient très difficile. Si, d'entrée de jeu, si le matin, en me levant, je me sens déjà perturbé, mal dans ma peau, etc., alors chaque fois qu'il va survenir quelque chose de difficile, tout ça, ça va augmenter la pression. Déjà, je suis mal en moi. Déjà, vraiment, je me supporte mal. Alors, en plus, quand j'ai du brouillard sur la route, du verglas, hein, je rencontre des collègues qui sont en kikinante, etc., ça devient l'enfer, ça devient l'enfer. Mais dès lors qu'en moi, je sens déjà que tout est bien en ordre, etc., je sens une sorte de cuirasse. Je sens que chaque fois que de l'extérieur, je vais être agressé, je vais être heurté, blessé, eh bien, je ne serai pas blessé, parce que je sens qu'intérieurement, j'ai la grâce de Dieu. Et ça, c'est énorme, la confession. Qui donne cette paix, cette sécurité. Dieu est providence, Dieu est infiniment puissant, infiniment bon, il me protège. Si Dieu est avec moi, qui est contre moi ? C'est le cinquième effet. Ouais. Et puis, le sixième effet, eh bien, c'est que la confession, ouais, d'une certaine manière, renouvelle tout mon être extérieur. Vous voyez, vous avez une voiture, hein, elle a déjà 120 000 km, elle tourne, disons, mais vous sentez que le moteur est complètement encrassé. Ouais, complètement crassé. Alors vous la mettez chez le garagiste là, hein, et il vous nettoie tout ça, il vous change quelques pièces, etc. Et vous sentez que vous avez un nouvel instrument entre les mains. Ou quelqu'un qui n'est pas malade, mais bon, il y a quand même des bourrelets là, la bouée de sauvetage, hein, il va faire une cure, etc. Alors après, il me semble que c'est une nouvelle vie. Je ne suis plus la même personne. Ouais. Eh bien la confession, c'est un peu ça aussi. dans tout mon être, je sens une sorte de rajeunissement spirituel, une sorte de renouvellement, une sorte de reconstruction de moi-même. Ouais. Donc, il faut absolument que cette retraite, ce soit ça, votre point d'appui, le sacrement de pénitence. Que chaque, prenez la résolution d'aller une fois par mois. Ouais, souvent, c'est difficile de faire plus. Mais au moins, une bonne confession mensuelle, vous maintenez un rythme. Ouais. Et je pense que c'est divin. Le sacrement de pénitence, c'est vraiment d'institution divine. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a mis sa grâce. N'allez pas chercher des moyens de sanctification, etc., des recettes que vous trouvez dans les livres de piété à 3 sous, etc. C'est le sacrement de pénitence. Et puis, vous voyez, le sacrement... alors, je pourrais, en plus, si vous voulez, j'ai toute la liste, donc, des effets de toute confession, et puis j'ai en plus la liste des effets d'une confession fréquente. Alors, je ne vous les dis pas, parce que là, vous serez complètement galvanisés. Ouais. Mais c'est merveilleux, c'est beaucoup plus encore, beaucoup plus. Et l'effet, un des effets principaux, donc, de ces confessions fréquentes... c'est que ça fait de nous des lutteurs. Ouais. La confession fréquente nous donne cette habitude. Et bien finalement, au lieu de nous sentir accablés devant les difficultés, de nous sentir vraiment en situation d'infériorité, la confession fréquente, au contraire, nous sommes des confirmés. Hein, et qui veut la castagne, là, approcher, et bien, ça nous donne cet esprit de lutte. Et c'est le chrétien. Nous sommes des soldats de notre Seigneur Jésus-Christ. Et... on peut dire qu'une des principales manières de grandir dans la vie spirituelle, c'est la lutte, justement. Hein? C'est pour ça que le bon Dieu le permet. Vous voyez, un enfant, comment il grandit? Ben, pas en le bourrant de nourriture. Il faut qu'il fasse de l'exercice, votre enfant. Il faut l'obliger à se confronter, etc. Il passe des examens constamment, vous le sollicitez. C'est comme ça qu'il grandit. Bon, il faut le nourrir en même temps. Bien sûr, il faut les deux. Ouais. Mais il faut les deux. Il faut les deux. Oui. Et donc la confession nous permet de repartir. Là, bon, j'ai perdu une bataille, mais j'ai pas perdu la guerre. Me revoilà maintenant, viens par là. Et la meilleure défense, c'est l'attaque, donc j'y vais. Voilà, c'est ça. C'est ça la confession. Si c'est bien compris, c'est exactement ça. Nous sommes des lutteurs, nous sommes des soldats de notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est vraiment la confession. Ouais, qui nous donne le démon, finalement. Toi, je t'ai déjà repéré. Je sais comment... vous voyez, les lutteurs, ils connaissent tous les coups. J'ai vu déjà, par le film, etc., mon adversaire, je sais quels sont ses points faibles, ses points forts, etc. Ben, la confession, c'est un peu ça. Ouais. L'expérience nous a montré nos fragilités, nos faiblesses, etc. On en tient compte. Mais aussi, on a des capacités. On a cette puissance de la grâce en nous, etc. Et on n'a plus peur du combat. Vous voyez, il ne faudrait pas... imaginez que la confession, si vous voulez, c'est le moyen finalement uniquement de nous maintenir en état de grâce. Ouais. Imaginez quelqu'un, ça existe malheureusement pour notre santé physique, vous avez des gens, bien, tous les 15 jours, il faut les emmener en SAMU, etc. Puis là, il faut leur donner la dialyse ou je ne sais pas quoi, leur changer tout leur sang, etc. C'est dramatique, évidemment, c'est des personnes qui ne peuvent rien. Mais la vie spirituelle, c'est pas ça! Ouais, on n'est pas obligé, tous les 15 jours, vous emmenez au confessionnal, en SAMU, et dire, voilà, elle est en état de péché mortel, il va falloir lui changer tout son sang, etc. Ah ben c'est pas ça quand même. Spirituellement, on se porte bien. Ouais, ça va. Et la confession, c'est ça. Ouais. Et la messe, bien sûr, sacrement d'Eucharistie, le sacrement d'Eucharistie nous maintient dans cette forme. Tout ce que je viens de vous dire sur le sacrement de pénitence, justement, c'est sous cet aspect de lutte. Mais la Sainte Messe a des effets merveilleux sur nous. Vous savez que la Sainte Messe, essentiellement, les trois parties principales, c'est l'offertoire, c'est le canon, la consécration, et c'est la communion. Alors, je ne parle pas de la première partie de la messe, donc c'est ce qu'on appelle la liturgie de la parole. Mais c'est une introduction à la messe. Vous savez qu'autrefois, les catéchumènes, ceux qui n'étaient pas baptisés, ils étaient mis dehors à la fin du sermon, justement toute la partie d'enseignement, etc. Ouais. Mais quand on commençait la messe proprement dit, dehors, vous n'êtes pas baptisés, ou les pécheurs publics, dégagez. Voilà. Donc, alors qu'est-ce qui se passe à la messe? Eh bien, À la messe, vous le voyez bien, le pain et le vin, c'est des aliments qui auraient pu servir pour un repas ordinaire. Eh bien, à l'offertoire, ouais, on prend possession de ces aliments, le pain et le vin, et ils deviennent matière du sacrifice. On les sépare pour qu'ils soient vraiment, ouais, la propriété du sacrifice. C'est ça qui se passe. Eh bien, cet acte, vous savez que les sacrements ont toujours une partie visible, signe, qui exprime une réalité spirituelle, une réalité invisible. Donc, on voit bien, vous voyez, qu'à l'offertoire, ces éléments matériels, le pain et le vin, qui sont absolument profanes, qui pourraient être utilisés jusqu'à l'offertoire, utilisés pour n'importe quel pique-nique. Mais à partir de l'offertoire, non. Ils sont pris à part, ils deviennent vraiment la propriété du sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à ce moment-là, je dois me dire, moi aussi, j'étais une créature humaine, mais le bon Dieu m'a choisi. Le bon Dieu a voulu faire de moi son enfant. Par le baptême, je suis devenu fils de Dieu. J'appartiens à la famille de Dieu. Oui, il y a une sorte de consécration. Vous voyez, lorsque vous construisez une église, hein, c'est un bâtiment, au départ, c'est les mêmes murs, ils sont faits avec les mêmes matériaux. Mais une fois que vous avez l'église, vous voyez, elle appartient au culte. Et dans une église, faire un pique-nique, faire un bal, etc., c'est une profanation. Parce que, désormais, cette église, une fois qu'elle est consacrée, elle appartient au culte de Dieu, elle fait vraiment partie. Elle est séparée des autres bâtiments. C'est une église, c'est un temple de Dieu. Je n'ai plus le droit de l'utiliser comme une salle polyvalente. Ouais, c'est vraiment la propriété de Dieu. Elle est séparée du reste. Eh bien, moi aussi, à l'offertoire, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je renonce à Satan. Je m'attache à Jésus-Christ. À chaque messe, je sens, si vous voulez, que j'ai besoin de refaire cette séparation du mal. Je sens que pendant ma journée, pendant ma semaine, finalement, les choses se sont un petit peu confondues. Je me suis mis un petit peu en complicité avec le mal. Je suis rentré un peu en connivence avec mon péché. Eh bien, à la messe, je recreuse le fossé. Je fais en sorte qu'à la messe, justement, eh bien, ce renoncement à Satan, il soit authentique, il soit vrai. Ouais. Et cet attachement à notre Seigneur Jésus-Christ, je le réaffirme. À chaque messe, justement, eh bien, petit à petit, je marque la distance, ouais, parce que je sens bien que mon problème, il est là. C'est pas tellement que le monde est pourri, que la société est complètement dégradée. C'est moi qui, finalement, mêle les choses. Souvent, je fais du marchandage, je fais du calcul, et je ne sais plus tellement si je suis attaché à notre Seigneur Jésus-Christ et si j'ai renoncé à Satan. Lorsque je commets le péché, je fais bien un pacte avec Satan. Je passe bien de l'autre côté, je passe dans l'autre camp. Donc, à chaque messe, non. Je demande à notre Seigneur Jésus-Christ, vraiment. Vous voyez, c'est comme un prêtre, il ne peut pas dire, voilà, je porte la soutane, etc., lorsque je prêche, je garde la dignité, mais pendant les vacances, j'envoie le froc aux orties, et j'en deviens vieux garçon, hein, Dieu merci, j'ai pas de femme ni enfant, hein, ben, je peux plus profiter de la vie. Il n'a pas le droit, il a été choisi, il appartient, il ne peut pas avoir biface. Il ne peut pas être de temps en temps un homme consacré, un homme vraiment dit homme, et puis d'autre part rester un vieux garçon égoïste. C'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. Lorsque vous vous êtes marié, qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, vous vous êtes séparé. Tant que vous n'êtes pas marié, vous avez le choix. Hein, vous pouvez y aller, hein, vous pouvez laisser les prétendants tourner autour, etc. C'est toujours agréable de sentir que... Mais une fois, ben, après c'est pareil, une fois que vous avez fait le choix, et vous appartenez vraiment, alors c'est ce que vous faites à la messe. Je sens bien que mon mari, après des années de mariage, etc., il y a des incompréhensions, il y a des tensions, etc. Et je sens une certaine froideur, je sens un certain éloignement. Alors à la messe, je demande la grâce, que ce que j'ai promis jusqu'à la mort, d'appartenir à cet homme, malgré ses défauts, malgré ses maladies, malgré ses échecs, eh bien, je réaffirme cette voilà ce qu'on fait à la messe. Ouais. Moi qui suis prêtre aussi, J'appartiens à une congrégation, la Fraternité Saint-Pédis, etc. Mais bon, moi, le supérieur général, Monseigneur Felet, ben, il m'impressionne guère, si vous voulez, parce que moi, quand je suis rentré à Écône, j'étais déjà pratiquement prêtre quand il est rentré, je l'ai connu en culotte courte, enfin. Ouais. Alors bon, quand cet homme-là prend des décisions, j'ai pas le droit, à la main, j'ai dit non, j'ai pas le droit de le considérer comme ça. C'est vraiment mon supérieur, il a vraiment grâce d'état. À la main, je demande à m'attacher à cette promesse que je lui ai faite, d'obéissance, de soumission, c'est vraiment mon supérieur. Ouais. Et de me séparer de cet esprit d'indépendance, d'autonomie, etc. Voilà la messe qui me transforme. Je sens bien qu'à la messe, il y a tout un cheminement, il y a toute une démarche complète. Et c'est ça la grâce de la messe. Je sens bien que je ne suis pas simplement spectateur de ce qui se passe, de voir simplement l'enfant de cœur qui fait des gestes malhabiles en donnant la burette dans le mauvais sens, etc. Je sens qu'il y a un engagement profond. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ouais. Qu'est-ce qui se passe à la messe? Eh bien, il y a un changement. Vous voyez, ce pain et ce vin qui ont été séparés, qui sont devenus la propriété, c'est toujours du pain et du vin à l'offertoire. Qu'est-ce qui change à la consécration, c'est que c'est plus du pain et du vin. Il y a transformation complète. C'est plus de la matière, un élément nutritif, comme de la boisson, etc. Ça devient une réalité céleste. C'est vraiment le corps, le sang, l'âme, la divinité. Il y a transsubstantiation à la messe. Transsubstantiation. Mais vous voyez que ce changement, il se fait aux dépens de la matière. Il n'y a plus que les accidents, l'apparence. C'est plus du pain et du vin, ça n'en a que les apparences, ça a le goût, ça a la couleur, ça. Mais c'est plus du pain et du vin. Ouais. Il y a un changement complet, une transsubstantiation. Eh bien, qu'est-ce que je fais à la messe? Je me dis, Seigneur Jésus, ne permettez pas que ce soit simplement de la matière qui soit divinisée, qui soit surnaturalisée. C'est mon âme qui en a besoin. J'ai besoin à la messe de sentir que moi qui suis sensuel, qui suis égoïste, qui suis cupide, qui suis avare, etc., le bon Dieu veut vraiment me diviniser. Il nous a dit de soyez les imitateurs comme des enfants bien-aimés. À la messe, vraiment, je dois, comme dit Saint Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse Jésus-Christ en moi et que moi je diminue. À la messe, chaque fois que j'assiste à la messe, je demande cette grâce. Que moi qui suis resté, malgré mon baptême, malgré mon sacerdoce, depuis tant d'années, je reste trop humain, je reste trop naturel. Mais je suis sûr qu'à chaque messe, si j'y assiste vraiment, Jésus va me transsubstancier, puisqu'il est capable de changer de la matière, du pain et du vin, en lui-même. Vous voyez que lorsque vous avez la Sainte Hostie, c'est le même Jésus qui est au ciel, le même Jésus qui était dans le sein de la Vierge Marie pendant 9 mois. C'est le même, puisque dans la Sainte Hostie, vous avez le corps, le sang, l'âme et la divinité. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter à Jésus à ça? Rien d'autre. Le corps, le sang, l'âme et la divinité. C'est le même Jésus qui est au ciel et qui était dans le sein de la Vierge. C'est le même Jésus qui est là, sur l'autel. Changement prodigieux. Et à partir de quoi? Le support, c'est du pain et du vin. Mais ils doivent complètement disparaître. Eh bien, moi, ma vie chrétienne, c'est ça. À chaque messe, je demande que toutes mes petites fantaisies, mes désirs personnels, etc., que tout ça disparaisse. Ça devienne du néant. Ça n'a plus lieu d'être. Ouais. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Mais c'est à chaque messe que ça se passe, ça. Est-ce que vous pouvez trouver une meilleure méthode de sanctification? Est-ce que vous pouvez trouver dans les livres de piété quelque chose de plus efficace que ça? Mais enfin, où est le secret, où est le trésor de la vie chrétienne si ce n'est la messe? C'est pas possible autrement. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe à la messe? Eh bien, il y a la communion. Notre Seigneur Jésus-Christ, oui, non seulement... Il devient présent, notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vraiment présent. Mais c'est pour se donner, c'est pour se donner à moi, c'est pour se donner en nourriture. Notre Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas simplement, et c'est vrai qu'il faut, dans le tabernacle, vénérer notre Seigneur Jésus-Christ comme présent dans le tabernacle. Et déjà, il nous honore incroyablement par sa simple présence, notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il fait beaucoup plus. Il se fait nourriture de notre âme. On nous explique bien la différence. C'est que la nourriture, à la différence de la nourriture, nous, quand l'absorbons, elle est complètement transformée, assimilée, etc. Heureusement, hein, parce que si on avale des radis, puis tout d'un coup, ils sont ou un poireau, hein, heureusement qu'ils sont transformés. Ouais. Mais c'est l'inverse dans le Sainte-Eucharistie. Dans la nourriture, c'est moi qui transforme toute la nourriture en mon sang, hein, en ma peau, en mes muscles, etc. C'est la nourriture qui est complètement changée par la communion. Dans l'alimentation. Dans la communion, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est Jésus qui vient en moi. Il nous dit, de même que le Père m'a envoyé et que je vis par le Père, de même celui qui me mange vit par moi. Par moi. Ouais. Notre Seigneur Jésus-Christ montre bien. Ouais, que... Alors, dans la Sainte Communion, nous recevons cette présence de Dieu, ouais, cette capacité de Dieu. Mais c'est pour la communiquer à notre peuple. Vous voyez, un prêtre, il reçoit des pouvoirs exceptionnels, le prêtre. Le pouvoir de dire la messe, le pouvoir de confesser, le pouvoir de baptiser, etc. Mais ces pouvoirs, ils ne sont pas pour lui. Sans doute, le prêtre est ennobli par sa consécration sacerdotale. Bien sûr, ça devient un être, si vous voulez, vraiment possesseur, dépositaire de cette puissance de Dieu. Le prêtre a vraiment pouvoir de remettre les péchés. Mais c'est pas pour lui, c'est pas à son service. C'est pas, le prêtre ne peut pas s'absoudre lui-même, se baptiser lui-même. Ouais. Ses pouvoirs, ils sont au service des autres, de même que vous. Lorsque vous vous mariez, bien sûr, d'une certaine manière pour satisfaire certaines aspirations qui sont bien légitimes, mais essentiellement, vous vous mariez pour remplir un rôle dans la société. Vous voyez, on fait la distinction. Sur les 7 sacrements, vous en avez 5 qui sont vraiment pour nous, qui sont pour notre sanctification. Si on est baptisé, si on est confirmé, si on reçoit le sacrement de confession, la communion et l'extrême onction, c'est pour soi. On ne peut jamais recevoir ces 5 sacrements pour les autres. À la différence de l'ordre et du mariage. Celui qui reçoit l'ordre, ce n'est pas pour lui. S'il veut se sanctifier, qu'il se fasse moine, religieux, mais qu'il ne se fasse pas prêtre. S'il se fait prêtre, c'est pour les autres. Et si on se marie, c'est pour les autres. Ah, eh ouais. Il n'y a rien à faire. Ouais. Et pourquoi? Parce que justement, dans le mariage, qu'est-ce qui se passe? C'est que le bon Dieu vous donne vraiment le pouvoir de procréation. Ce n'est pas rien. Il vous donne le pouvoir de transmettre la vie, de communiquer la vie. Il n'y a rien de plus beau que la vie. Il n'y a rien de plus précieux que la vie. Eh bien, dans le mariage, vraiment, vous vous engagez à être au service de la vie. Et c'est quelque chose de sacré. La vie est sacrée. Ouais. Voilà pourquoi, vous voyez, par exemple, un célibataire qui commet le péché solitaire, il commet vraiment quelque chose de sacrilège contre la vie. Il n'a pas le droit. En tant que célibataire, il n'est pas dans l'état de mariage où il peut utiliser à son gré, selon ce caprice, de cette force vitale qui le rend capable de transmettre la vie, mais pas dans n'importe quelle condition. Dans le péché solitaire, je me donne le plaisir qui est joint, oui, au devoir de transmettre la vie, oui. Je supprime ce devoir, parce que je n'ai pas ce devoir de donner la vie, mais je me donne le plaisir. Eh bien, c'est un sacrilège, même si personne n'en est victime, dire dans le péché solitaire, la masturbation, mais il n'y a que moi qui suis concerné. Eh bien non, je suis en train de profaner quelque chose de sacré, la vie. Rien à faire. Et on peut très bien, tous les médecins vous le diront, les médecins honnêtes vous diront, qu'on peut très bien, en gardant la virginité, vivre d'une manière complètement normale, avoir un épanouissement physique. C'est-à-dire que sans utiliser, parce que cette force vitale qui me permet de transmettre la vie, elle n'est pas nécessaire pour moi, pour bien vivre, pour ma santé. C'est absolument faux. Les médecins qui vous disent que pour qu'un homme se peut épanouir ou une femme qui sont célibataires, elles ont besoin de ce genre de plaisir sexuel. C'est absolument faux. Celui qui reste vierge, qui n'utilise jamais ce plaisir, parce qu'il n'en a pas le droit, ce plaisir, il est lié au pouvoir de transmettre la vie. Donc des époux, ouais, qui trahissent leurs devoirs matrimoniaux, en se donnant du plaisir et en excluant ce devoir de transmettre la vie, eh bien, ils font aussi un sacrilège, c'est l'onanisme. On dit, mais ils font ça entre eux, ils sont bons époux, etc., ils ne nuisent à personne. Eh bien, non! Eh bien, non! Ils sont en train de profaner la vie et que, dont Dieu seul a le pouvoir. C'est vrai que les époux, dans le mariage, ont vraiment reçu ce pouvoir. Mais pas pour eux. Ils sont au service de la vie. Et chaque fois qu'ils utiliseront ce pouvoir de transmettre la vie d'une manière indue, justement en se donnant du plaisir, mais en neutralisant les effets de transmission de la vie, eh bien, eux aussi, comme celui qui est dans le célibataire dans le péché solitaire, il fait une sorte de sacrilège par rapport à la vie. Il n'y a rien à faire. Donc vous voyez bien, ouais, que dans la communion, nous recevons un pouvoir, mais qui nous engage au dévouement, qui nous engage à l'esprit de service. Vraiment, par la communion, je suis divinisé par cette présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce n'est pas seulement pour moi. Je dois devenir apôtre, je dois devenir missionnaire. Vous vous sentez bien, vous qui êtes père et mère de famille, eh bien, une fois que vous avez mis des enfants dans l'existence, vous avez le devoir de vous dévouer, d'être à leur disposition. Un prêtre aussi, une fois qu'il a reçu le sacerdoce, il ne peut plus vivre avec une certaine paresse, une certaine négligence. Ce pouvoir qu'il a reçu de sanctification, il doit sans cesse l'utiliser, l'employer au service des autres. Eh bien, la messe, c'est ça. Je me rends compte qu'à la messe, c'est vraiment notre Seigneur Jésus-Christ qui chasse en moi cet esprit individualiste, cet esprit mercenaire qui cherche toujours son avantage, qui cherche toujours son intérêt. Je sens qu'à la communion, vraiment notre Seigneur Jésus-Christ me donne ce courage, cette énergie de communier, qu'il y ait cette vie divine que j'ai reçue en moi. C'est vraiment ça, la communion. Ça me change complètement. C'est ça la messe. C'est ça la messe. Ne cherchez pas, je vous en supplie, des dévotions particulières en dehors de ce sacrement sacrament. Non. Ah, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Alors, ce qui me semble aussi très important, vous voyez, par rapport à une retraite, c'est les résolutions. Mais quelles résolutions prendre? C'est toujours le grand problème. Eh bien, là aussi, vous voyez, soyez logique, soyez cohérente. Qu'est-ce que je dis dans l'examen de conscience? Dans l'acte de conscience. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché vous déplaît. Ça, c'est la douleur pour le péché. Je prends la ferme résolution. Ben, elles sont là, vos résolutions. Voilà. Quelle résolution? De ne plus vous offenser, d'éviter les occasions et de faire pénitence. Voilà. Vous avez tout un programme. Ouais, pour changer. Alors, vos résolutions, ne les prenez pas comme ça, au petit bonheur, la chance. Oui, qu'est-ce qui me fera envie, effectivement, ouais, de modifier dans mon comportement? Faites-le par rapport à vos confessions. Vous ne pourrez plus dire. Chaque fois que je me confesse, c'est la même chose. Pourquoi c'est la même chose? Parce que, justement, vous ne tenez pas vos résolutions. Dans la confession, il y a un engagement. J'ai fait promesse. Je prends la ferme résolution de ne plus vous offenser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire perdre l'habitude. Si on offense notre Seigneur Jésus-Christ, c'est justement par répétition. Donc si je ne veux ne plus offenser notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de perdre l'habitude. Il y a des habitudes de péché. C'est bien là mon problème. Alors comment enrayer ces mauvaises habitudes? Ensuite, d'éviter les occasions, ouais, et de faire pénitence. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça chaque fois. Bien sûr que non. Ouais. Mais il faut cibler. Il faut cibler. Vous voyez, le commerçant qui se rend compte qu'il y a de moins en moins d'affaires dans ses étalages et puis il y en a moins en moins dans sa caisse non plus. Il dit, il y a un problème là. Hein. Alors, il ne faut pas qu'il s'envoie une balle dans la tête en disant, je suis minable, ça ne va pas régler les problèmes ça. Hein. Il faut tout les laisser. Alors, qu'est-ce qu'il doit se faire? Eh bien, il analyse. Pourquoi ça va mal? Pourquoi, en travaillant comme un perdu, finalement, je ne gagne pratiquement rien et je perds mon truc? Il analyse. Donc, dans une confession, c'est ça. Vous voyez, il ne faut pas penser que la confession, c'est une sorte de... Voilà, on va un distributeur, hein, on met la liste de péchés, on appuie sur le truc, hein, et vous avez l'absolution, et on repart tranquille. Hein. Et non, la confession, tout en ayant ces pouvoirs merveilleux dont je vous ai parlé, ces effets merveilleux, elle suppose ma collaboration, elle suppose ma coopération. Le bon Dieu me prend pour un être intelligent. Le bon Dieu me montre beaucoup d'estime, beaucoup de considération, ouais, en me montrant qu'avec la confession, ça ne va pas me dispenser de tout effort. Ouais, bien sûr que non. Vous voyez, le médecin, le bon médecin, ce n'est pas celui, si vous voulez, qui va vous dire « Vous savez, j'ai des médicaments, il n'y a aucun problème. Vous voulez maigrir, etc. » Ça ne vous demandera aucun effort. Simplement, hein, vous serez une pharmacie ambulante. Hein, jusqu'à votre mort, ben voilà, il faudra être avec vos médicaments. Non ! Vous avez un bon médecin qui vous dit « Je vais vous donner très peu de médicaments parce que vous n'en avez pas besoin. » Mais il faut changer de vie. Il faut faire de l'exercice le matin, etc. Il faut peut-être corriger certaines habitudes de nutrition, etc. Vous allez voir. Là, vous dites, c'est un vrai, celui-là. Parce qu'il prend en moi. Il me demande à moi, ouais, de me ressaisir, etc. La confession, c'est ça. Il faut très peu, finalement. Ouais. Mais il faut vraiment que je me prenne en charge. Et c'est ça. Je prends la ferme résolution de ne plus vous offenser, donc de perdre l'habitude, d'éviter les occasions et de faire pénitence. Voilà, c'est ça. Alors, il faut calculer d'après ça. Alors, quelles sont les habitudes? Eh bien, pratiquement, c'est le défaut dominant. Ouais, pourquoi? Je parle, par exemple, d'habitude de paresse. Moi, systématiquement, mes affaires, qu'est-ce que c'est que la paresse? Souvent, c'est le désordre. Quelqu'un qui est désordonné, c'est quelqu'un qui n'est pas exigeant, qui se laisse aller, etc. Ou quelqu'un qui est toujours en retard. Il arrive toujours finalement, mais c'est en train dans les pieds. Mais c'est insupportable quand vous vivez en collectivité et vous avez toujours quelqu'un qui arrive avec un délai. Ça supporte, ça empoisonne la vie. Il s'empoisonne la vie à lui, mais aussi. La colère. Alors, vous voyez, quand vous allez vous confesser, à dire, moi, il n'y a rien à faire, c'est toujours désordonné, voilà pourquoi mon mari pique des colères comme c'est pas possible, il rentre du travail, il est exaspéré, il est fatigué, et il voit un bazar pas possible, hein, ou bien je suis toujours en retard, hein, alors que je suis à la maison, etc., c'est jamais prêt. Alors du coup, il va sur l'ordinateur, etc., et il envoie les enfants balader, hein. La colère, ça peut être pas forcément des éclats, mais une mauvaise humeur, là. Hein, je sens que... beaucoup plus efficace que les gros coups de... Hein, ou bien la susceptibilité, dès qu'on me soupçonne simplement d'avoir eu un oubli, etc., je monte sur mes grands chevaux. Voilà. La vanité, hein, dès que je vais dans les magasins, je craque et je fais des dépenses pas possibles. Hein, ou la vanité, j'ai toujours un peu de soupçons, de rivalité, de concurrence, etc. Est-ce que je suis la meilleure? Est-ce que je suis la plus basse? Ou bien l'avarice. Avarice, bon, je paye mes dettes, mais toujours en faisant attendre le plus possible, etc. Puis impossible de prêter mes affaires, alors tout est camouflé, tout est soufflé, etc. Les gens qui rentrent à la maison, c'est vraiment le... Dès qu'il faut le moindre instrument, il faut demander 36 permissions, mettons un jour. Voilà. Ben voilà! Je prends la ferme résolution de ne plus vous offenser. Il va falloir s'attaquer à ça. Hein, il n'y a rien à faire. On les perd, les mauvaises habitudes, il n'y a aucun problème. Mais il faut en prendre les moyens. C'est la vie spirituelle, c'est le combat spirituel, il y a des méthodes, faites-vous conseiller. Vous voyez, quand vous avez un pénitent qui vient au confessionnal, etc., qui vous débite tout un truc, etc., vous dites, ah, mais il n'est pas sérieux, ce gars-là, bon, je vais lui donner l'absolution, parce qu'autrement, ça va vous décourager. Ouais. Mais quand vous avez quelqu'un qui, d'entrée de jeu, vous dit, voilà, mon père, mon défaut dominant, c'est celui-là, et dans cette confession, j'aimerais bien que vous me donniez vos conseils. J'ai remporté telle petite victoire, mais je me suis bien laissé aller aussi, donc je voudrais me ressaisir, etc. Là, le confesseur sent qu'il y a quelqu'un là qui est en train de vouloir bâtir, de vouloir construire, c'est encourageant. On ne va pas faire un discours, si vous voulez, pieusard, etc., qui convient, hein, qu'on pourrait stéréotyper à chaque confesseur, hein, à chaque pénitent, balancer le même truc. Non, là, on cible, on sent vraiment quelqu'un. Ensuite, passons aux occasions. Ouais. Il y a des gens, par exemple, qui ne sont pas coléreux. Ouais, qui ne sont pas coléreux, mais il leur arrive vraiment d'avoir des difficultés par rapport à certaines personnes. Voilà. Moi, je m'entends très bien avec mon mari, vraiment, on a un couple très uni, etc. Mais il suffit qu'on aille dans la belle famille, alors dans la voiture, en allant et en revenant, alors vraiment, on est comme ça. Donc, en fait, ce n'est pas quelqu'un qui est coléreux, mais c'est une occasion qui fait que, dans ces cas-là, il est coléreux. Alors c'est complètement différent. La médication va être différente là. Vous voyez, c'est plus une habitude, c'est une occasion. Le remède ne va pas être le même. Ouais. Ou bien, voilà, médisance avec une... Moi d'ordinaire, j'aime pas comme ça, pavé sur la réputation des autres, etc. Mais avec une voisine, il faut bien qu'on soit là avec la voisine, il n'y a pas quelque chose. Hein, on est un peu bavard et souvent ça dérape, ça glisse, etc. Ouais, je deviens médisant. C'est pas par habitude, d'ordinaire, j'ai ce souci de ménager la réputation des autres. Mais c'est avec cette personne-là, je sais pas, elle a un don d'amener le sujet, petit à petit. Les lieux, vous voyez, les occasions. Moi, d'une manière habituelle, je suis pieux, je suis attentif, etc. Mais je sais pas, quand je me trouve dans l'église, il y a toute une ambiance là, que je me sens un peu, j'ai difficile à me concentrer. Alors quand je suis sous tôle, il n'y a aucun problème. Vous voyez, c'est pas l'habitude, c'est l'occasion. Alors, la vulgarité. Ordinaire, je châtie mon langage, etc. Mais je sais pas, lorsque je suis avec le copain, alors là, si vous voulez, je deviens un peu vulgaire dans mon langage, etc. Ouais. Donc, dans les occasions, ce qu'il faut vraiment dire dans les occasions, c'est qu'il faut distinguer entre occasion nécessaire et occasion libre. Ouais. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui va vous dire qu'il est alcoolique. Est-ce que c'est par habitude, où qu'il soit, et dans quelques circonstances où il se trouve, il a vraiment cette propension à abuser de l'alcool? Ou bien il va vous dire, non, c'est par occasion. D'ordinaire, je suis vraiment sobre. Mais avec certains copains, là, je sens que je me laisse aller. Donc vous voyez que là, c'est une occasion libre. Vous allez lui dire, eh bien, monsieur, si vous êtes sobre habituellement et que c'est avec ses copains, lorsque vous allez dans un bar, que vous vous enivrez, il ne faut plus y aller parce que c'est une occasion libre. Par contre, si vous avez quelqu'un qui se dit, ben voilà, moi je suis alcoolique, mais je suis goûteur de vin. Alors là, c'est plus difficile, ouais, parce que c'est une occasion nécessaire, c'est son métier. Ouais. Ah, il ne veut pas. Ouais, la différence. Ouais. Vous voyez, tout ce que je vous ai dit là, c'est justement des occasions nécessaires. Quand je pêche par une occasion libre, vous voyez, par exemple, quelqu'un qui va vous dire, moi, je sens que j'ai vraiment respect de ma dignité, etc., mais quand je suis dans un bal, je sens que là, il y a les cigarettes, il y a l'alcool, etc., c'est une occasion libre. Vous pouvez très bien ne pas y aller tout de même. On peut vivre sans bal. Ouais. Ou bien c'est par des spectacles, etc. Eh bien, il faut peut-être vous en passer. Alors, je prends justement, vous voyez, par rapport aux activités. Il y a les occasions, c'est soit des personnes, soit des lieux, soit des activités. Par exemple, un étudiant va vous dire que, et voilà, il étudie les lettres et il doit connaître les auteurs avec leurs œuvres, avec certaines qui sont vraiment malsaines. Et va vous dire, j'ai vraiment des tentations graves contre la foi et contre les mœurs quand je lis tel ou tel auteur. C'est une occasion nécessaire, parce qu'il fait ses études. Ouais, c'est une occasion nécessaire. Alors, comment il va falloir procéder? Eh bien, il faut demander au confesseur, dans ce cas-là. Par contre, quelqu'un qui vous dit, oui, j'ai des tentations contre la foi, etc., parce que je lis tel ou tel magazine, etc. C'est une occasion libre. Il peut très bien changer de lecture, changer d'abonnement. Vous voyez la différence entre une occasion libre que je peux facilement éviter, ouais, par exemple, vous avez une jeune fille un petit peu volage, etc., elle a des fréquentations avec des amis, IS, et elle se sent un peu ébranlée. Ouais. Bon, ben, il va falloir peut-être que... C'est une occasion libre, elle doit faire un choix dans ses fréquentations. Par contre, si c'est la même jeune fille qui vous dit, je me sens un peu en tentation avec mon fiancé, ah ben, c'est une occasion nécessaire. Si vous lui dites, ben, il ne faut plus le voir, ben, c'est dommage. Les fiançailles, par définition, c'est pour se connaître. Donc vous voyez que là, il faut faire la différence. Et puis ensuite, bon, je passe un peu rapidement, mais retenez le principe, ouais, de la confession. Et pareil, lorsque vous allez vous confesser, n'allez pas faire une liste, ouais, en cherchant à dire absolument tous vos péchés. Dans votre confession, avouez simplement les péchés d'habitude, les péchés d'occasion, ouais, et les pénitences que vous faites ou vous ne faites pas. Ouais. Souvent, ça cible bien la confession. Et ça vous aidera aux résolutions. Les résolutions que je prends sont en rapport avec la confession que j'ai faite. Quels sont les péchés que je commets d'habitude, ouais, sans cesse par répétition? Quels sont les péchés que je commets par occasion, ouais. Et puis, vous voyez, je prends la ferme résolution de faire pénitence. C'est quoi cette pénitence à laquelle je m'engage? La pénitence que je dois faire après une bonne confession, c'est d'abord réparer les torts que j'ai faits aux autres. Les torts que j'ai faits aux autres. Comment j'ai pu faire tort aux autres? Eh bien, dans leur propriété. Si j'ai volé, si j'ai gardé le bien d'autrui, je dois restituer. C'est ça la pénitence. Je dois restituer le bien d'autrui que j'ai en ma possession indûment. Ensuite, comment j'ai pu faire tort au prochain? C'est en faisant du dommage, non pas à ses biens matériels, mais à sa réputation. Eh bien, je dois réparer. La pénitence, c'est réhabiliter la réputation du prochain. Et ça, c'est pas facile. Vous voyez, il y a bien des gens qui s'accusent de médisance sans penser qu'ils doivent réparer la réputation qu'ils ont lésée par la médisance ou par la calomnie. C'est un devoir dont rien ne peut nous dispenser. Réparer, c'est-à-dire, et c'est beaucoup plus difficile que la restitution. Restitution, j'ai volé 100 francs, je rends 100 francs. Aller réparer la réputation de quelqu'un auquel j'ai vraiment nui, ouais, en révélant ses défauts, ses péchés, etc. Et pourtant, c'est un devoir très grave, très grave. La réparation, la pénitence qui consiste à réparer la réputation à laquelle j'ai nui, ouais, en réhabilitant la personne dans sa dignité. Ne nous étonnons pas que nos confessions sont souvent les mêmes, parce que justement nous ne faisons pas la vraie pénitence. Alors évidemment, sans être des confessions sacrilèges à proprement parler, c'est des confessions qui sont infructueuses, parce que justement, je ne tiens pas ma résolution. Je dis ça comme un vœu pieux pour que le prêtre me laisse tranquille, hein, et me lâche les baskets et que je puisse retrouver. Ça, c'est pas possible. Ouais. Qu'est-ce que je dois faire aussi dans la quelle pénitence? Le tort à autrui, c'est dans ses biens matériels, c'est dans ses biens moraux, sa réputation, c'est aussi dans sa paix. Vous voyez, lorsque j'ai agressé quelqu'un, lorsqu'on s'est insulté, lorsqu'on a profondément perturbé la personne, je dois me réconcilier. Je dois me réconcilier. Ça fait partie de la pénitence, le devoir de se réconcilier. C'est ça. Donc la pénitence, je prends la ferme résolution de faire pénitence, c'est réparer les torts, les dommages, les préjudices que j'ai fait à autrui. Ouais. Soit par la restitution si j'ai nui à ses biens matériels, la réhabilitation si j'ai nui à sa réputation, soit par la réconciliation s'il y a eu dispute, s'il y a eu offense, etc. Et ça, rien ne peut m'en dispenser. Ensuite, faire pénitence, c'est non seulement pour le mal que j'ai fait à autrui, mais c'est aussi pour les omissions de mes devoirs. Si je me suis accusé de complètement abandonner mes prières, etc., je prends la ferme résolution de faire pénitence, c'est-à-dire de reprendre mes habitudes de prière, ouais. D'aumône. Hein? Alors l'aumône, ça peut être l'aumône corporelle et spirituelle, mais mes devoirs d'État surtout. Ouais. Souvent on pêche, vous voyez, je dis bien, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, par parole, par action et par omission. Par omission. Souvent on accuse les péchés par action. Mais par omission, on peut pécher gravement par omission. Hein? Un père et une mère de famille qui ne remplissent pas leur devoir d'éducateur, qui laissent leurs enfants faire n'importe quoi, etc., ils pêchent gravement par omission par rapport à l'éducation. Ouais. Donc quand ils disent « je prends la ferme résolution de faire pénitent », c'est-à-dire qu'ils deviennent véritables éducateurs, qu'ils prennent leurs responsabilités. Quelqu'un, le devoir d'État, quelqu'un qui dans sa condition professionnelle est plus ou moins honnête avec le temps, avec l'argent dont il dispose, etc. Ouais. Manque de conscience professionnelle. Faire pénitence, c'est vraiment réparer le tort que j'ai fait à l'entreprise, en n'étant pas là au moment où il fallait, en prenant certaines libertés auxquelles mon contrat de travail ne m'autorise pas. Je dois réparer ces omissions. Ouais. Bon, voilà. Les résolutions de retraite, c'est ça, c'est prendre au sérieux ces sacrements divins que sont la communion et la confession. Se confesser et communier régulièrement dans de bonnes conditions, c'est infaillible, parce que c'est Dieu lui-même qui a donné ces moyens-là pour me maintenir dans la vie spirituelle, dans la vie surnaturelle. Dieu ne peut pas se tromper, Dieu ne peut pas me tromper. C'est ces moyens que l'Église met à ma disposition, n'en cherchant pas d'autres. Alors tout le reste... Le reste est secondaire. Le reste est secondaire par rapport aux autres moyens de persévérer. C'est les sacrements, essentiellement pour moi, qui me sanctifient. Soyez fidèles aux sacrements, prenez au sérieux vos confessions, et ça va changer. Vous allez vous transformer. Ouais. Aidez-vous des prêtres. Le prêtre ne peut pas vous dire, moi je confesse, je donne l'absolution, j'ai pas le temps de m'occuper de mon âme. Si vous venez une fois par mois, vous dites, mon père, vraiment, consacrez-moi un quart d'heure, je vous promets, montre en main, je vais pas dépasser. Mais je veux faire des vraies confessions. Il peut pas vous refuser ça, c'est impossible. Ou alors c'est plus un prêtre. Mais le prêtre sera très content de trouver des pénitents qui en face tiennent la route et veulent faire les choses avec conscience. Il n'y a rien de plus démoralisant. Je vous assure, quand vous êtes au confessionnal, là déjà, c'est pas très agréable, vous avez un siège déjà qui n'est pas très content. Et vous voyez les gens qui rentrent dans l'église, là, et puis ils voient que le prêtre est là-bas, ils se professent dans le confessionnal, etc. Puis ils vous disent, mon père, vous pourriez m'aider à faire ma confession. Mais il se fiche du monde, ce gars-là. Il ne s'est pas préparé, etc. Puis c'est moi qui dois faire son examen de conscience. En fait. Puis alors, si je lui fais la moindre remarque, il va m'envoyer, ah ben, si c'est ça, hein, la confession, j'en ferai plus jamais. Alors, il faut que je le prenne bien gentiment. Je vous félicite de venir au confessionnal. Est-ce que ce gars-là, hein, s'il avait un procès, etc., hein, il arrive au tribunal comme ça, hein, en disant, voilà, hein, et alors, quelle est votre affaire, votre cause? Ah ben, si vous pouvez l'étudier à ma place... Alors, je vous assure, les prêtres n'attendent que ça. Je vous parle en leur nom, des vrais pénitents qui vont se confesser vraiment en ayant cette ferme espérance que c'est un moyen surnaturel, infaillible, de changer, de se transformer, se sanctifier, avec la communion, bien sûr. C'est inséparable. Bien sûr, c'est inséparable sans la communion. Il faut les deux. Mais celui qui communie sans se confesser vraiment, ou celui qui se confesse sans communier, c'est impossible, ça va ensemble. Vous avez jamais vu un oiseau se balader avec un... Ah. Et non, il faut les deux. Et oui, bien sûr, la communion. Voilà.